La grande table des idées aujourd'hui avec Lucas Bretonnier et Ozana Chauvin. Thomas Beau à la réalisation et Laurie Vachet à la technique. Retour sur le procès des attentats de janvier 2015, alors que se tient en ce moment celui des attentats du 13 novembre. Avec notre invité, l'écrivain Yannick Hennel, auteur de « Tiens ferme ta couronne » chez Gallimard ou encore de « La solitude » de Caravage. En 2020, il a assisté au procès des attentats de janvier 2015 avec le sentiment, raconte-t-il, de participer à un événement qui à la fois nous déborde et nous rassemble. Jour après jour, il a chroniqué pour l'hebdomadaire Charlie le récit judiciaire de cette tragédie, les temps forts du procès, chaque soir une chronique mise en ligne. Au cinquième jour du procès, la cour va diffuser les images des caméras de surveillance. On y voit les hommes en noir, de la tête aux pieds, Kalachnikov à la main, et les corps qui tombent, un visage qui supplie, de la peur plein les yeux. Ce soir-là, malgré le vin, l'écrivain ne parvient pas à écrire. Pourquoi ? La violence paralyse le langage, dit-il aujourd'hui, elle ridiculise les mots. Dans un livre, il le raconte, Notre solitude, qui paraît aux éditions Les Échappées, il raconte comment il a été saisi, paralysé à ce moment-là. Comment écrire l'horreur? La littérature peut-elle nous sauver au-delà de ce soir où rien ne vint sur la feuille blanche? Une réflexion autour du pouvoir de la littérature. Bonjour Yannick Hennel.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Avant d'en venir aux mots, M.O.T.S., quelle image vous garderez, vous, de ce procès que vous avez chroniqué, celui des attentats de janvier 2015?
Alors, j'en ai plein d'images, ce sont des détails. Et vous parliez du fait d'être sauvé, ce sont les détails qui nous sauvent. Je pense au chemisier blanc de Zary Siboney, la caissière de l'hypercachère, chemisier qui m'a ébloui, tout autant que sa parole. Je pense à, là aussi, un détail crucial, c'est Coco à la barre, rejouant le moment où elle a failli perdre la vie, quand les Kouachi ont pointé leur Kalachnikov sur elle. Elle s'est mise à genoux devant la cour, elle a levé les bras, elle a croisé les mains sur sa tête, et elle a redit dans une sorte de transe, m'a-t-elle dit après, ce qui s'était passé. Donc vous voyez, ce sont des images qui sont pas très apaisantes, mais qui finalement relève pour moi plus de la lumière que des ténèbres, enfin de quelque chose qui a été donné plutôt que confisqué.
Et dans ce livre, Notre solitude, vous réfléchissez à cela, à cette opposition justement entre lumière et ténèbres. Le monde a besoin de saints, écrivez-vous, qui est du génie, comme une ville où il y a la peste a besoin de médecins. Vous parlez de saints, là encore, au sujet de Zary Siboney, avec son chemisier blanc, comme vous l'évoquiez, la caissière de l'hypercachère, devenue depuis infirmière, de saints plutôt que de héros. Pourquoi ?
Oh, c'est à la fois ma... Ce sont mes préoccupations personnelles, je dirais. Mais c'est aussi parce que je pense qu'il existe une sainteté laïque. Je pense que, je ne sais pas si on a besoin de Dieu pour être un saint ou une sainte. Mais en tous les cas, je crois qu'il y a une sainteté à l'intérieur de la parole. L'héroïsme, c'est autre chose. C'est vraiment dans les gestes, dans les actes, dans la confrontation avec le monde et la violence. Mais là, c'est la parole qui m'intéressait. Parce que, durant ce procès de cour d'assises, j'ai vu s'affronter. Je dis pas que c'était une scène de crime à nouveau, mais j'ai vu s'affronter à l'intérieur de ce qui se disait, du point de vue des accusés, du point de vue des survivants, une nouvelle remise en jeu du pouvoir de la parole. J'ai entendu que finalement, même si ça ne fait pas revenir les morts, même si ça ne répare pas tant qu'on le dit, la parole crée un autre espace. Voilà. Enfin, je sais que ceux et celles qui sont venus témoigner, d'une part, nous ont évidemment bouleversés, mais se sont sortis de quelque chose. C'est du moins ce qu'elles disent. Je dis elles parce que c'est beaucoup des femmes qui m'ont frappé, enfin. Enfin, c'est leurs paroles qui m'ont. Parce qu'en fait, la question, c'est jusqu'où on peut aller, en fait, dans les ténèbres. Moi, je n'ai été que le témoin des témoins. J'assistais à ça médusé chaque jour. Et c'était moins le récit judiciaire qui m'a passionné, dont j'ai rendu compte pour Charlie. C'était moins ce récit qu'un autre récit un peu bizarre, mystérieux. Un récit métaphysique, disons, ou spirituel. Et je voyais qu'il y en avait qui allaient très très loin. Dans la dénudation, je dirais. Mais la dénudation devant quoi ? Devant leur propre nuit. Et moi, du coup, le soir, en rentrant, j'essayais aussi de me mettre à nu dans cette nuit que l'écriture ouvre, enfin, dans cette nécessité de peut-être de rencontrer les morts. Enfin, on est à la fois dans quelque chose qui peut sembler une folie, dans quelque chose qui peut relever de la foi, que je suis pas tellement sûr d'avoir, mais j'aimerais. En tous les cas, j'ai foi dans la littérature et dans les pouvoirs de la parole, tout comme les parties civiles. Je pense beaucoup à tous les jours au procès qui se tient en ce moment. Enfin, je pense que les parties civiles ont ce courage de vouloir avoir la foi dans la parole. Voilà, il se passe quelque chose dans la parole qui ne se passe pas ailleurs.
Et vous dites que c'est une réflexion sur la parole dans une époque où le bavardage est devenu aussi un peu notre lot commun, alors que la société est devenue le lieu d'une guerre assourdissante où personne n'écoute personne, où l'on ne parle qu'avec ceux qui sont d'accord avec nous. Je découvrais que dans une cour d'assises, on entendait battre le cœur de l'humanité, comme dans une phrase de Hegel que j'aime particulièrement. Cette phrase, la voici, le battement du cœur pour le bien-être de l'humanité passe donc dans le déchaînement d'une présomption démente, dans la fureur de la conscience, pour se préserver de sa propre destruction. Avant de prendre de la hauteur et de réfléchir sur le pouvoir des mots, Yannick Enel, il y a deux, trois questions que je souhaitais vous poser un peu plus terre à terre, mais vous évoquiez le procès qui se joue en ce moment, celui du 13 novembre. Pourquoi vous n'avez pas choisi de couvrir ce procès-là ?
Oh, c'est trop, là, j'en peux plus. Vous savez, ça a été une expérience. Moi, je ne suis pas chroniqueur judiciaire, donc je ne suis pas protégé. J'allais tous les jours assister à ce très long procès l'année dernière pour Charlie Hebdo, parce que je suis chroniqueur culturel pour eux, une fois par semaine. Mais
vous l'étiez depuis quand ?
Oh, ben juste après les attentats, c'est-à-dire qu'à la fin janvier 2015, ils ont cherché des gens, et j'ai accepté tout de suite. Il y avait Marie Darrieussecq à l'époque aussi, Robert McLiam Wilson, donc il y avait pas mal d'écrivains qui se sont dit que c'était la chose à faire. Et oui, je ne me suis pas protégé du tout. Enfin, j'ai senti que plus j'étais fragile, et je peux vous assurer qu'on était fragilisé immédiatement. Enfin, plus j'étais fragile, plus j'avais des chances peut-être de m'approcher de ce que je cherchais à retranscrire. Enfin, quelque chose à la fois d'émotif et puis d'ouvert sur l'humanité, comme vous le disiez. Et donc voilà, c'est quelque chose qui a relevé d'une expérience que je ne peux pas rééditer, en fait.
Pourquoi avoir accepté de couvrir celui des attentats de janvier 2015 aussi? Parce qu'à ce moment-là, vous vous dites avec un certain nombre de vos confrères écrivains que vous êtes peut-être tous, vous, à la juste distance, à la bonne distance. C'est une discussion que vous aurez notamment avec Rhys sur qui est légitime pour écrire et raconter ce qui se joue dans cette salle d'audience. Or, cette question de votre place, de votre positionnement, elle va se poser à vous tout au long de ces audiences et de ces comptes rendus que vous devez en faire. Se mettre à la place de tous, n'est-ce pas le travail des écrivains? N'est-ce pas précisément votre place, sa place, la place de l'écrivain? Pourquoi ce soir, au cinquième jour, ce soir-là, il a été si difficile pour vous, alors que vous aviez réussi les jours précédents, d'écrire ce qui s'est passé dans cette salle d'audience? Pourquoi vous n'avez pas trouvé votre place ou les mots qui allaient avec?
Ben là, c'est le sujet des 100 premières pages de ce livre. Enfin, c'était presque un récit. Enfin, ce soir-là, plus aucune place n'existait. Enfin, quelque chose que nous avions vu dans la journée, c'est-à-dire les images des caméras de surveillance à l'entrée de Charlie Hebdo, où on a vu les Kouachi arriver en noir et blanc, enfin, poussant Coco et tirant sur Simon Fieschi, puis des images, pour le coup, arrêtées en couleur, celles de la scène de crime, des cadavres, avec les petits chevalets de la rédaction de Charlie Hebdo. Ça m'a tétanisé. Enfin, là, je n'ai plus vu aucune place à occuper. Quelque chose se brouillait. Et durant cette soirée où j'essayais d'écrire immédiatement le texte, enfin, comme on fait quand on est journaliste, enfin, directement dans la brasserie à côté du tribunal, j'ai senti en moi une taie. Vous voyez, comme on en a sur les yeux parfois, mais c'était une taie mentale. Ça a duré pendant des heures et j'ai senti quelque chose, je le raconte, c'est une expérience de maléfice. J'ai senti que j'étais pris, enfin que j'étais sous l'emprise de cette horreur, quoi, que l'horreur m'avalait. Et donc je n'avais absolument plus de distance. Moi qui m'étais dit, je veux m'avancer au plus près, je veux devenir fragile pour les autres, pour témoigner de manière plus incandescente, je m'étais fait avoir, en fait. Et il a fallu toutes sortes de choses durant cette nuit, des petits rites aussi, parfois un peu ridicules, qu'on opère sur soi-même quand on est écrivain, pour me ranimer, et pour pouvoir, à 4h du matin, enfin, donc des heures après, écrire cette fichue chronique, mais surtout pour traverser cette distance impossible. Mmh.
C'est de plus en plus difficile de rendre compte de ce procès. Hein. Voilà comment commence cette chronique du lundi 7 septembre. Elles ont été publiées, rassemblées dans un ouvrage paru en janvier dernier. Janvier 2015, le procès avec les dessins de François Bouc qui est là à l'audience avec vous et qui croque ces scènes d'audience, ces scènes de procès. C'est à retrouver aux éditions Charlie Hebdo, Les Échappés. Voilà, on retrouve du coup cette chronique que vous avez mis tant de temps à accoucher, qui a été si difficile pour vous à écrire, Yannick Haenel, avec ces mots. Vous dites notamment, vous revenez sur cette expression qui dit « regarder la mort en face ». Cette expression est inexacte, écrivez-vous, car ce n'est pas la mort que nous regardons, contrairement aux victimes qui l'ont vue, elles, contrairement aux rescapés qui l'ont encore dans les yeux. Ce n'est pas la mort, mais des morts, et plus précisément l'image des morts. Et nous affrontons une chose qui est si grande qu'elle nous fait perdre la raison. Écrivant ce texte, je ne sais pas tout à fait ce que je fais, mais ma fébrilité me fait espérer que ces phrases trouvent la hauteur d'esprit qui accueille les justes, penser qu'elle s'ouvre comme une arche pour recueillir ceux qui ne meurent pas, même quand on parle des morts. Et les morts ne meurent pas tant que nous parlons d'eux. Ils vivent à l'intérieur de notre parole. Ils sont là pour toujours, pas dans un film, mais dans nos cœurs. Les morts ne meurent pas tant que nous parlons d'eux. C'est pour ça qu'il fallait l'écrire. Il a fallu aller au bout, dépasser les obstacles, accepter d'endurer cette tragédie pour trouver les mots.
Oh ben je crois, c'est l'une des expériences les plus importantes de ma vie. Là j'ai senti que penser aux morts, c'était produire un acte, enfin un acte de justesse peut-être. La justice c'est trop grand pour moi, mais la justesse, puisque je suis seul avec ma page toutes les nuits à ce moment-là, c'est la moindre des choses que d'essayer d'y accéder. J'ai senti en écoutant tous ceux qui venaient parler du fait qu'ils étaient revenus des morts, ou de la mort, qu'il s'agissait pour moi, de manière un peu intrépide, peut-être un peu folle, de m'approcher de ça, de cet endroit qui est sans espace, enfin qui n'est sur aucune carte. Penser aux morts, c'est un acte moral déjà. C'est pas seulement du deuil, c'est comme un impératif qu'il y a à l'intérieur du langage. Enfin, il me semble qu'une partie de la langue est là pour nous rapprocher par le chant qu'on chante, de ce qui n'est plus là, de ce qui n'est pas là. Et donc assistant à un procès, et pas n'importe quel procès, étant face à des récits de crimes, il me semblait vivre aussi quelque chose de plus important que moi, plus important que mon regard, plus important que ce que je pouvais dire sur des paroles judiciaires, mais que c'était une très vieille histoire, en fait. Et qu'il s'agissait, je sais pas comment, mais de tenir bon, enfin d'aller mener du langage, même là où ça semblerait impossible, de le planter, si je puis dire.
J'ai découvert que la justice était le lieu où les vivants et les morts se parlent, écrivez-vous Yannick Haenel. Comme la littérature, votre livre est une réflexion sur les liens aussi entre littérature et justice. Et on entend, on se dit quelque part que vous avez aussi, à travers ces chroniques, cherché à dresser, à construire un tombeau littéraire à ces hommes et ces femmes disparus dans ces attentats de janvier 2015. La compréhension, l'empathie, la compassion passent par le langage. Mais l'horreur absolue peut-elle se dire, peut-elle se comprendre? On va écouter Marguerite Duras en 1986.
Ce matin, à la télévision, on a vu Auschwitz. Les 5000 personnes qui restaient. Elles ont été photographiées par un Allemand. Vous l'avez vu, ça, à la télé? Un Allemand qui a maintenant 70 ans. Un jeune soldat allemand qui a pris en photo les derniers juifs derrière les grilles. Et on a vu, dans toute leur fraîcheur, Les compartiments à dentiers, à lunettes, à cheveux. Des gens gazés. Difficile de prononcer certains mots. On va parler d'autre chose peut-être.
Marguerite Duras, alors là on est sur un autre sujet de douleur et d'indicible sur la Seconde Guerre mondiale, la Shoah. Marguerite Duras qui dit, c'est son incipit de la douleur, « Je me suis trouvée devant un désordre phénoménal de la pensée et du sentiment auquel je n'ai pas osé toucher et au regard de quoi la littérature m'a fait honte. » Est-ce que parfois, Yannick Haenel, cette littérature que vous chérissez tant et dont vous semblez croire que tout lui est permis, tout est possible avec elle, est-ce que parfois la littérature vous a fait honte aussi ?
Non, jamais. Il se trouve qu'elle s'arrête. Parfois ça s'arrête, voilà, on peut plus. Mais honte jamais, non, parce que je sens que c'est plutôt nous, les pauvres humains, ou alors moi, qui ne suis pas à la hauteur de la littérature. J'ai une telle foi dans la littérature que j'y vois l'héritière des religions, comme disait Georges Bataille, c'était sa définition. Et donc je pense qu'elle peut tout, enfin elle est comme l'amour, mais honte d'elle, non jamais, c'est juste qu'il y a sans doute, il y a de l'innommable, voilà. Je suis heureux, enfin c'est terrible d'entendre Duras parler comme ça, mais je suis heureux de l'entendre parce que après le procès, je n'arrivais plus à lire de littérature, justement. Et la seule que je supportais, que je trouvais pas frivole, c'était Marguerite Duras. Et pas seulement la douleur, hein, c'était tout ce qu'elle écrit. Même Outside, même des textes comme ça de journalistes. Je me disais, elle a traversé tellement de choses, des ténèbres, disons, pour parler vite. Ce deuil noir de la vie dont elle parle, je sais plus où. Je me disais, elle, ça tient, voilà. La question, c'est comment ça tient, la littérature ? Est-ce que, parce qu'on peut très bien rester dans son propre dorlotage, on peut écrire ces petites choses, ces salades, c'est agréable, mais quand on se retrouve confronté, je sais pas trop pourquoi je l'ai fait, mais maintenant, je suis assez fier d'avoir, de m'être dérangé à ce point-là, en fait, pendant 3 mois. Ça change complètement mon exigence, ça change ce que j'attends de la littérature. Mais honte, non, j'aurais jamais honte de ça.
Vous parliez tout à l'heure de votre solitude. D'ailleurs, c'est le titre de ce livre, de cette réflexion, Yannick Haenel, notre solitude. Vous pourriez parler de nos solitudes, parce qu'au fond, on sent aussi que toutes ces solitudes s'additionnent. Qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Est-ce que les solitudes et les tristesses peuvent entrer en résonance, se rencontrer ? Est-ce que ça se joue parfois aussi dans une salle d'audience ? On va écouter le philosophe Michael Fossel sur cette manière dont chagrin peut-être individuel et collectif, où nos deuils peuvent s'imbriquer.
Il faut distinguer deux tristesses. La tristesse des proches, évidemment, et sur laquelle on n'a pas apporté de discours public, je crois, et la tristesse qui, tout de même, c'est aussi un signe de cet événement, s'est emparée des citoyens, c'est-à-dire le fait que nous puissions quand même reconnaître que ces morts, s'ils ne sont pas nos proches, sont néanmoins les nôtres. Alors évidemment, la difficulté, c'est que la deuxième tristesse, la tristesse du deuil national, la tristesse collective, doit quand même au moins s'imposer de ne pas trahir la première, de ne pas parler à la place de la tristesse des proches. Mais cela étant dit, je crois que le fait que nous ayons tous, plus ou moins et de manière différente, je le répète, été atteints par ces attentats, démontre aussi que le deuil, et c'est à cela que ça sert le deuil, hein, que ce soit au niveau individuel ou collectif, le deuil c'est un temps dans lequel on se pose la question de savoir qu'est-ce qui a été attaqué, qu'est-ce qui est perdu. Et ça c'est très important politiquement, si vous voulez, parce que évidemment pour savoir quel mode de réplique il faut adopter politiquement, collectivement à ces attaques, encore faut-il prendre la mesure de ce qui a été attaqué en elle. Et de ce point de vue, je dirais, les terroristes, hélas d'ailleurs, nous indiquent très clairement ce qu'ils ont voulu détruire. Ce sont des modes de vie fondés sur la liberté.
Voilà, c'est toute la question du jeu et du nous aussi, hein, Yannick Haenel. Et on parlait de la position, la bonne position à adopter pour vous, pour l'écrivain, pour le chroniqueur judiciaire. Comment compatir aussi sans s'identifier ? Comment faire le récit d'une telle violence ? Hein, comment raconter sans être voyeur, obscène ? Comment ne pas trahir aussi ? Hein, Michael Fossel l'évoque à travers cette fusion des chagrins, cette rencontre des solitudes aussi. Hein.
Oui, j'étais accompagné sans cesse par une jeune femme qui travaille à Charlie Hebdo, qui s'appelle Agathe André, et qui, le premier jour, avait eu cette phrase extraordinaire, que j'ai beaucoup médité, parce que je lui disais, jusqu'où on va avoir le droit d'aller, je peux pas m'identifier à qui que ce soit. Elle a posé cette question, à quel chagrin avons-nous droit? Et je crois que là, il y a, comme le dit Michael Fossel très bien, il y a un questionnement politique, enfin. C'est vraiment à partir de quand, à partir de quel moment, qui n'est pas identifiable, est-ce qu'on peut dire nous, pas à la place des autres, mais avec les autres. C'est aussi pour moi le lieu intenable et merveilleux, presque féerique, c'est une féerie noire, mais quand même, de la littérature. On est seul, absolument seul, et on ne pense qu'aux autres. Moi, ça a été ça, la grande chose de ce procès aussi, c'est que je me suis rendu compte que la philosophie, qui est l'autre nom pour moi de la littérature, enfin, c'est une manière de constamment briser, d'essayer de briser cette violence qui nous sépare des autres. La communauté des esprits, notre solitude, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça ce livre, c'est pour moi c'est pour moi le cœur même de toute pensée, de tout battement de cœur, comme on disait tout à l'heure, de toute tentative d'écrire des phrases, enfin, se rapprocher sans cesse jusqu'à, comme dans les romans de Dostoïevski, enfin, c'est jusqu'à une forme d'égarement même, de se rapprocher empathiquement des autres, voilà, de l'autre. J'étais très frappé en écoutant les accusés pendant 3 mois de voir que, indépendamment de ce qu'ils avaient fait, leur responsabilité ou non, dont j'ai rendu compte, mais de voir que les autres existaient très peu pour eux. Ils avaient perdu cette notion d'autrui. Et je pense que c'est ça le crime.
C'est ce que peut la littérature, ramener cet autre au cœur de l'espace. C'est peut-être le propre de la littérature de pouvoir se faire autre, hein, et de voir un jeu dans l'autre. Yannick Enel, vous êtes notre invité jusqu'à 13h30 à l'occasion de la parution de ce récit réflexion autour du procès de janvier, des attentats de janvier 2015 que vous avez chroniqué l'an dernier pour Charlie Hebdo. Le livre s'appelle Notre solitude, il paraît aux éditions Les Échappées. France Culture, il est presque 13h20.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Ce qui se joue dans le massacre de Charlie Hebdo relève d'un affrontement entre les ténèbres et la lumière, écrivez-vous, entre la clarté du rire et l'obscurité de la vengeance, entre une puissance de vie et une puissance de mort. Est-il possible de délivrer les âmes séquestrées dans ce récit ordonné par le crime? Vous évoquez dans ce livre récit réflexion l'espace sacré de la cour. Vous parlez de la compassion, de bien et de mal, de délivrance, avec parfois des majuscules aussi sur le bien et le mal. Moins de pardon, moins de réconciliation. Est-ce que c'est aussi ce qui était en jeu au cours de ce procès dans cette salle d'audience, selon vous, Yannick Enel?
C'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que je l'ai entendu. Il me semble qu'à chaque instant, quelque chose se joue du sort du monde, dans la manière qu'on a de mettre en mots ce qu'on vit. Et là, dans ce lieu absolument démocratique, dans ce lieu politique qui est une cour d'assises, j'assistais à autre chose qu'à des joutes oratoires, à des rapports avec la parole. Vous savez que la barre, enfin ce lieu là où viennent parler les témoins, les survivants, les parties civiles, c'est quelque chose qu'on peut rapprocher du mundus, comme on disait dans les cités antiques. Il y avait les établissements utiles autour, mais il y avait toujours un trou. Et ce trou, c'était le rapport avec les morts, c'était le passage du sacré. Alors je suis allé jusqu'à voir du sacré, effectivement, dans un lieu, dans un des grands lieux de la laïcité. Mais c'est pour mieux, c'est pas pour imposer ça, enfin, c'est pour mieux essayer d'entendre ce qui se jouait intérieurement, dans ce que personne n'est arrivé à dire, ni les accusés, ni les parties civiles. Cette chose effarante qu'on ne peut pas dire comme ça. C'est vrai que j'ai convoqué en moi Homer, Simone Veil, j'ai convoqué tout ce que j'aime, enfin Kafka, pour essayer de peut-être de faire parler ça, enfin ce jeu entre, oui, les ténèbres et la lumière, enfin, cette très vieille histoire immémoriale. Ouais.
On peut parler de vous comme d'un écrivain chrétien ou pas?
Mais je me demande.
Comment on a pu le dire pour
Mais je suis content que vous posiez la question, parce que moi, j'accepte pas ça de moi-même. Et pourtant, je crois que si. Vous voyez? C'est un peu étrange. Je sais pas, agnostique, j'en sais rien. Dans ce cas-là, on dit ça par pirouette. Mais peut-être qu'à la fin, il faudra bien que j'admette que je suis sûrement un écrivain chrétien. Ouais.
Dans tous les cas, vous vous laissez imprégner par cette spiritualité, cette part de sacré aussi. Et c'est intéressant à ce titre que vous soyez devenu la plume de Charlie Hebdo dans ce procès.
C'est
un peu Charlie, hein, qui s'est quand même aussi longtemps attaqué à la religion catholique et à ses représentants aujourd'hui encore, qui a pu faire des caricature ou s'en prendre au curé, et qui vous avoue maintenant, Yannick Haenel, pour raconter ces longues scènes de procès. Il y a un paradoxe, vraiment, vous pensez?
Non, je disais ça. Disons que ça m'amuse. Je pense que Charlie Hebdo s'attaque avant tout au fanatisme, à tous les fanatismes, au fanatisme religieux de toutes sortes, pas seulement musulmans d'ailleurs.
Et donc ça ramène à la question de la place. Vous vous êtes senti à votre place, d'être la plume de Charlie dans ce procès.
Mais au fond, ce qui m'intéresse, c'est de pas me sentir tout à fait bien à ma place. C'est de pas savoir quelle est ma place, parce que je crois que c'est là que se joue quelque chose de vacillant, de vertigineux, qui me fait, je sais pas, qui me fait penser qu'il y a de la littérature. Là, il y en a. Et effectivement, depuis 5-6 ans à Charlie Hebdo, ça nous amuse, ça les amuse eux, ça m'amuse moi de voir que c'est sûr qu'on n'a pas du tout la même conception des choses concernant l'esprit, le sacré. Mais c'est pas qu'on s'en accommode, c'est que ça parle les uns aux autres. Charlie Hebdo étant, je le dis comme ça, le journal le plus libre que j'ai connu, où je peux raconter toutes sortes de choses, même sur Jésus si j'ai envie. le point de vue qui consiste à se rendre disponible à du sacré, c'est-à-dire qu'à plus grand qu'au corps, enfin, ça m'a semblé évident tout de suite dans ce procès. Il me semblait que ça se passait précisément parce que les scènes de crime relèvent de quelque chose d'innommable, enfin. Le sacré, pour moi, c'est pas une solution, c'est pas ce qui vient surplomber ou transcender l'immanence des corps et de la mort, pas du tout. C'est quelque chose c'est une plus grande acuité du terrible. C'est comme chez les tragiques grecs, vous voyez.
En face de la littérature se dresse l'acte mauvais à l'occasion de la mort du professeur Samuel Paty, dont vous allez découvrir pendant l'audience de ce procès des attentats de janvier 2015, de l'hypercacher de Charlie Hebdo, dont vous allez découvrir l'assassinat sur votre téléphone portable. Au cours du procès, vous allez écrire quelques pages, là encore, sur ce crime et sur ce qu'il réveille en vous. Il faut rappeler que vous avez été vous-même professeur pendant de longues années, en région parisienne notamment. On va écouter le témoignage d'un élève qui habite à Conflans. C'était l'an passé, juste après.
J'ai pleuré parce que c'est très grave. C'est très très grave qu'on peut se faire assassiner alors qu'on dévoile une caricature. C'est très très grave. Il a proposé aux élèves de sortir et ils ont décidé de ne pas sortir. Il aurait très bien pu mettre la caricature et... voilà. Non, au contraire, lui, il a quand même une bienveillance. Il a dit, vous propose de sortir car ça peut vous choquer, vous marquer. Je me dis, si maintenant, on montre juste à ses élèves une caricature, bim, allez, on devient un raciste. Enfin, du coup, alors, on peut plus rien dire, du coup. Et ça, c'est pas possible, en fait. Là, j'ai pas peur j'ai pas trop cette appréhension qu'un professeur désolé pour en dire ça comme ça, mais décapité comme ça à la sortie d'école. Mais c'est plutôt pour l'ensemble du collège que je suis inquiet. Je trouve qu'il faut pas leur donner ça. Je trouve qu'ils méritent pas ça. Je trouve qu'il faut, au contraire, continuer encore à apprendre. Pas qu'ils gagnent. Sinon, eux, ils vont gagner. Sinon, les terroristes, eux, ils vont gagner. Ils vont dire, voilà, on les a tués et eux, maintenant, ils apprennent plus, ils veulent plus revenir. Non, au contraire, il faut continuer à venir. Faut pas lâcher. On a le droit de parler, on a le droit de... Voilà, on a le droit.
qu'on assassine un professeur parce qu'il essaie de penser avec ses élèves, qu'on le tue parce qu'il se tue à essayer d'expliquer, comme tous les enseignants, qu'on ne tue pas quelqu'un qui ne pense pas comme vous, c'est non seulement une abomination, mais c'est aussi un attentat contre l'école elle-même, contre l'idée même d'éducation, contre la pensée, contre le fait de se parler, contre le fait de demander à quelqu'un ce qu'il pense. C'est une tentative pour nier l'éducation, écrivez-vous alors Yannick Haenel, au 34e jour de ce procès. L'horreur et la pensée, une fois encore, se sont entrechoquées. On entend là les mots de cet élève extrêmement mature qui pose en des termes simples, et c'est de nouveau le retour à la parole, hein, la question des mots, en fait. Peut-on tout dire? Pourquoi ne pourrait-on pas s'exprimer de cette manière-là, comme il l'a fait? Qu'est-ce que, un an après, vous pensez de ce qui s'est joué dans ce moment-là? De nos silences ou de nos mots?
D'abord, les paroles de ce garçon étaient merveilleuses, de maturité, comme vous dites, mais aussi de courage, enfin, tout simplement. Et je crois que la solitude des professeurs est infinie. Enfin, là, on entend aussi la solitude des enfants, mais la solitude des professeurs, et pas seulement dans les banlieues, est vraiment liée à un abandon politique aussi. Samuel Paty, pour moi, c'est aussi l'incarnation même de celui qui a fait ce qu'est l'école, c'est-à-dire un geste laïque, qui a exercé son geste laïque, c'est-à-dire de rire des dieux. Enfin, c'est ce que j'aime le plus au monde. Vous me demandiez aussi un peu si où j'en suis avec Dieu, finalement. Mais moi, j'aime rire des dieux, de tous les dieux. Et parfois, je me dis même que les dieux aiment qu'on rie d'eux. Contrairement à ce que croient les fanatiques. Et là où on en est, un an après, je saurais pas vous dire sociologiquement, mais je crois que je pense tout le temps aux professeurs qui sont au premier poste. Enfin, c'est devenu tellement, comment dire ça, c'est devenu politique que d'aller en classe pour essayer de faire entendre quelque chose qui relève simplement de la tolérance, voilà.
Merci beaucoup Yannick Haenel. Cette question justement, Louise Touré l'abordera ce soir dans Être et Savoir. Ce sera à 21h avec des enseignants et des chercheurs pour évoquer ces commémorations de l'assassinat du professeur Samuel Paty. À l'école, le rôle des enseignants, en particulier des enseignants d'histoire, pour transmettre ces valeurs de liberté d'expression, de vivre ensemble et de laïcité. Vous venez de l'évoquer, Yannick Haenel. Notre solitude, votre livre à vous, paraît aux éditions Les Échappées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.